Il est 19h30 en temps universel. Ravi de vous retrouver pour vous présenter le monde aujourd'hui en direct de Washington. Au micro, Nanit Talani. Au sommaire, Éthiopie-Somalie. Ankara annonce des progrès notables dans les pourparlers. Grève des médias sénégalais pour protester contre les mesures fiscales jugées étouffantes. La justice ougandaise déclare Thomas Koyelo, ex-commandant de la LRA, coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La saison de la mousson fait des centaines de morts depuis juin en Asie du Sud. Et puis ici aux États-Unis, Donald Trump et Kamala Harris s'affrontent sur l'immigration, déportation massive, contre-sécurité renforcée. Ce sera dans nos magazines. N'oubliez pas la Minute Éco et la page sport. En attendant, voici le journal. L'Éthiopie et la Somalie ont accompli un progrès notable lors du deuxième tour des pourparlers indirects menés par l'entreprise de la Turquie à Ankara, a annoncé ce mardi le ministère turc des Affaires étrangères. Le troisième tour des pourparlers est prévu le 17 septembre à Ankara. Il existe des convergences importantes sur certains principes majeurs et modalités spécifiques. Cela constitue un progrès notable, a affirmé le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan lors d'une conférence de presse à Ankara. La Turquie intervient dans la crise des deux voisins de la Corne de l'Afrique afin de permettre l'accès de l'Éthiopie aux eaux internationales, voire la Somalie, sans attenter à la souveraineté territoriale de celle-ci. Human Rights Watch demande aux autorités de Yaoundé de dire le lieu où se trouve un activiste camerounais des médias sociaux et a insisté pour qu'il soit libéré, craignant qu'il ne s'agisse d'une disparition forcée. Steve Akam, basé au Gabon depuis 10 ans et connu sous le nom de Ramon Kota sur TikTok, est apparu menotté à côté de la police camerounaise dans une vidéo publiée en ligne à la mi-juillet et n'a pas été revu depuis, a déclaré l'organisation. Ses avocats pensent que les autorités camerounaises ont renvoyé de manière extrajudiciaire Kota du Gabon au Cameroun et qu'il est victime d'une disparition forcée, assure l'organisation. Les autorités camerounaises n'ont pas répondu aux demandes d'informations de l'équipe juridique d'Akam sur le lieu où il se trouve, le privant de la protection de la loi d'après Human Rights Watch. Journée sans presse au Sénégal, plusieurs médias sont en grève pour alerter sur les mesures fiscales et économiques des nouvelles autorités qui leur font craindre pour leur survie, notamment à cause du blocage des comptes bancaires, des entreprises de presse pour non-paiement d'impôts, de la rupture unilatérale et illégale des contrats publicitaires et du gel des paiements dus aux médias. Quelques journaux ont choisi de ne pas respecter le mouvement, notamment le quotidien pro-gouvernemental Le Soleil et les journaux dont la ligne éditoriale est favorable au pouvoir. Quelques chaînes de télévision comme la chaîne publique RTS ont aussi continué à émettre. La justice ougandaise a déclaré ce mardi l'ancien commandant de la rébellion de l'armée de résistance du Seigneur, Thomas Koyelo, coupable de 44 chefs d'accusation relevant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La division des crimes internationaux, siégeant dans la ville de Gulu, dans le nord du pays, annoncera la peine à laquelle elle le condamne au plus tard mardi prochain. En Tanzanie, le principal parti d'opposition, le Chadema, affirme que plusieurs de ses principaux dirigeants ont été battus lors de leur arrestation dans le cadre d'une rafle massive avant un rassemblement interdit. Le président du Chadema, Freeman Mbowe, et son adjoint Tundu Lissou, tous deux anciens candidats à la présidence, ainsi que d'autres hauts responsables, ont été libérés sous caution ce mardi après avoir été arrêtés avec leurs sympathisants avant la manifestation des jeunes prévue lundi dans la ville de Mbeya dans le sud-ouest du pays. La police avait interdit le rassemblement prévu lundi par Chadema à Mbeya dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse, invoquant un risque de violence. Elle voulait aussi éviter une contestation comme celle qui a secoué le Kenya voisin dans le cadre d'un mouvement né de la génération Z. Le maire de Johannesburg a démissionné ce mardi après des mois de querelles politiques et de polémiques sur l'état de délabrement de la vaste agglomération qui est aussi le poumon économique de l'Afrique du Sud. La démission de Kabelo Gwamonda, 39 ans, qui occupait le poste depuis moins de 15 mois, signifie que la ville de près de 5 millions d'habitants devrait bientôt être dirigée par son 8e maire en 5 ans. L'Agence de santé de l'Union africaine, Africa CDC, a déclaré une urgence de santé publique en raison de l'épidémie de Mpox, marquant son plus haut niveau d'alerte, a annoncé ce mardi son directeur. Le continent est confronté à une nouvelle souche depuis septembre 2023. La communauté internationale ne fait pas assez pour combattre la plus grande crise de déplacement au monde au Soudan où la faim, les maladies et les inondations aggravent les souffrances d'une population déjà en proie au conflit, a déclaré ce mardi l'Organisation internationale pour les migrations. L'OIM dit n'avoir reçu que 21% du soutien dont elle a besoin pour fournir une aide cruciale aux Soudanais. Des pluies torrentielles ont tué depuis juin des centaines de personnes en Asie du Sud où des inondations et des glissements de terrain en cette saison de la mousson provoquent des dégâts généralisés, révèlent des données officielles ce mardi. Quelques 650 morts ont ainsi été recensés en Inde, au Pakistan et au Népal. Ici, aux États-Unis, Donald Trump a porté plainte contre le ministère américain de la Justice. L'ancien président réclame 100 millions de dollars pour tentative de persécution politique lors de la perquisition en 2022 de sa résidence en Floride par le FBI pour retrouver des documents classifiés. La France condamne une nouvelle provocation inacceptable après la prière conduite par le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, sur le site hautement sensible de l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est à l'occasion d'une fête juive. Paris appelle le gouvernement israélien à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter le statu quo historique sur les lieux saints à Jérusalem. La France souligne l'importance du rôle spécifique de la Jordanie à cet égard, ajoute le communiqué, puis l'Iran qui rejette l'appel de pays occidentaux à renoncer à ses menaces contre Israël, affirmant qu'il ne demanderait pas l'autorisation de riposter contre son ennemi juré qu'il accuse d'avoir assassiné le chef du Hamas palestinien, Ismaïl Haniyeh, sur son sol. Une telle demande manque de logique politique, est totalement contraire aux principes et aux règles du droit international, a réagi ce mardi la diplomatie iranienne. D'après Washington, une attaque iranienne pourrait certainement avoir un impact sur les discussions prévues jeudi sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
L'acheteur public de matières premières égyptien, GASC, est en pourparlers pour acheter 30 cargaisons ou jusqu'à 1,8 million de tonnes de blé à des vendeurs dont la Russie, selon des négociants en Europe et au Moyen-Orient. La Russie, premier exportateur mondial de blé, a renforcé sa présence au Moyen-Orient et sur d'autres marchés émergents dans le but d'augmenter ses exportations agricoles de 150% d'ici à 2030. Le Botswana veut renégocier son projet d'achat avec le négociant en pierres précieuses belge HB Antwerp à la suite du ralentissement du marché du diamant. Le Botswana, premier producteur mondial de diamants en termes de valeur, a vu son économie touchée de manière disproportionnée par la baisse de la demande de diamants provoquée par le ralentissement économique mondial. Le géant de la technologie Samsung fait face à une nouvelle menace de grève cette semaine en Corée du Sud. Le principal syndicat des travailleurs de l'entreprise a déclaré mardi qu'il entamerait une grève de 4 jours à partir de jeudi. Il souhaite faire pression sur l'entreprise pour obtenir une augmentation des salaires et des primes. Cette grève intervient quelques semaines après l'échec des négociations avec la direction en juillet dernier.
Bonsoir Eric.
Bonsoir Nanit.
Un demi-jour férié décrété au Botswana pour Letsile Tebogo.
Le président Mokgweetsi Masisi a déclaré férié la demi-journée de ce mardi après-midi en l'honneur du sprinteur Letsile Tebogo qui a apporté à son pays la première médaille d'or olympique de son pays en remportant le 200 mètres à Paris. Le président avait déjà accordé à ses concitoyens un congé d'une demi-journée vendredi pour célébrer la sensation du Botswana. Le pays a décroché aussi l'argent dans le relais 4 x 400 mètres. Portant à 4 le nombre total de médailles olympiques de l'histoire du pays.
La Chine célèbre sa réussite olympique.
La Chine a célébré ce mardi dans ses médias d'État et sur les réseaux sociaux l'un des meilleurs bilans olympiques de son histoire après les 40 médailles d'or remportées aux JO de Paris. Pékin a réalisé sa meilleure performance dans des Jeux olympiques hors de son pays, obtenant le même nombre de médailles d'or que les États-Unis, mais elle est distancée au nombre global de médailles par son rival de géopolitique 126 à 91.
Le drapeau olympique arrive à Los Angeles, ici aux États-Unis.
Le passage de relais est officiellement validé. Le drapeau olympique est arrivé sous un soleil radieux lundi à Los Angeles.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani toujours avec vous avant de mettre un terme à ce journal explorant d'abord nos dossiers du jour. Plusieurs médias sénégalais ont suivi ce mardi le mot d'ordre de la journée sans presse pour alerter sur les mesures fiscales et économiques qui menacent selon eux leur survie. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse au Sénégal met en cause les autorités au pouvoir depuis avril, notamment pour le blocage des comptes bancaires des entreprises de presse pour non-paiement d'impôts, la rupture unilatérale et illégale des contrats publicitaires, le gel des paiements dus aux médias. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Dakar Alassane Samba Diop, DG du groupe Emedia Invest.
D'abord, c'est une journée très réussie, extrêmement réussie, parce que la plupart des groupes de presse ont observé la journée. Les sites internet l'ont observé. Les citoyens sénégalais et les syndicats ont adhéré. Ils ont envoyé nous des morceaux de soutien à la presse sénégalaise qui avait fait une journée sans presse. Nous avons fait cette journée pas dans le but de chercher une confrontation. Nous voulons que le gouvernement nous entende, nous écoute, nous parle. Nous sommes des anti-sénégalais. Nous avons le droit à ce que nos gouvernements nous écoutent, nous parlent.
Qu'est-ce que vous voulez proposer au gouvernement, le modèle que vous proposez pour la survie de la presse?
Mais c'est très simple, il y a beaucoup de modèles. Le modèle d'abord, c'est de dire au gouvernement que le modèle économique dans lequel nous sommes aujourd'hui n'est plus opérant. Je pense qu'aujourd'hui la presse a complètement changé, qu'il faut aller vers la digitalisation. Le modèle économique se trouve dans l'Internet, dans la digitalisation. Mais, sachez une chose, au Sénégal, en Afrique, les GAFAM ne payent pas la presse africaine. Contrairement aux États-Unis ou en France, où là-bas les gouvernements ont plus de choses en main pour que les GAFAM les payent. Nous travaillons, Google, Facebook pompe nos articles, génère la publicité à côté, nous ne payons aucun sens. Alors au travail, c'est nous qui le faisons. On n'est pas rémunéré. Ça, déjà, c'est un gros manque à gagner. Ensuite, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de réformer de façon structurelle la presse. C'est des journalistes doivent être multimédia, former des journalistes qui soient à une certaine façon de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans l'Internet, pour qu'ils s'adaptent aux nouvelles technologies de la communication de l'information. Mais ça, ça demande la formation, ça demande un accompagnement, ça demande une vision. C'est ce que nous demandons aujourd'hui aux autorités de nous accompagner pour ce faire. Nous avons reçu aucune réponse par rapport à ces questions qui sont bien posées, qui ont été envoyées dans la République.
Et quels sont les dangers de cette disparition potentielle des médias classiques?
Mais le danger, c'est très simple, c'est les milliers d'emplois, c'est les milliers de jeunes qui seront dans la rue, des journalistes qui sont formés à bonne école, qui vont se mettre dans la rue, ils n'auront pas de boulot. Parce que les gens qui n'arrivent pas à payer les salaires, à payer les dons, ils vont fermer boutique, c'est tout. C'est là la crise, la conséquence, c'est des milliers de jeunes qui seront dans la rue. Alors que ces autorités-là ont été élues justement sur la base de création d'emplois. Nous créons des emplois, on doit nous accompagner dans cette création d'emplois, dans la formalisation, dans aider davantage les jeunes à les former. Le rôle de l'État, c'est d'accompagner une place solide, crédible, une place professionnelle indépendante. C'est que les jeunes aujourd'hui vont être récupérés par des forces étrangères, d'autres forces occultes. La presse est un secteur fondamental pour une démocratie. La presse sénégalaise a participé de façon remarquable à la démocratie sénégalaise. C'est grâce à la presse sénégalaise qu'on a pu avoir les alternances au Sénégal. Elle a permis la clarté des votes des Sénégalais. Moi qui vous parle, j'étais dans le bureau d'Abdou Diouf, le bureau dans lequel Abdou Diouf avait voté, à Berthe Maubert, à son centre-ville, où il a été battu dans son bureau de vote. Ça a permis au Sénégal d'avoir une première alternance. Idem quand Ablaye Wade est venu au pouvoir, idem quand Macky Sall est venu, idem pour Diomaye qui est là. C'est grâce à la presse qu'ils sont là. Elle participe à la presse sénégalaise, à la stabilité du pays. Quand il y a la Covid, la presse était là, au front, celle qui donne les informations aux populations. La stabilité du Sénégal dépend aussi du travail que la presse a eu à faire. Au Sénégal, les débats démocratiques, où les gens peuvent se parler, elle fait des services publics. Mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça.
C'était Alassane Samba Diop, DG du groupe Emedia Invest.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Un rapport conjoint de l'ONU et de l'Union africaine en 2023 fait état de risques accrus pour les personnes atteintes d'albinisme avec le réchauffement climatique en Afrique. Une analyse récente de World Weather Attribution avertit que de telles vagues de chaleur pourraient devenir plus fréquentes en Afrique de l'Ouest. Plus de détails avec Blanche Sanou.
Lorsque le soleil d'été est au zénith à Cotonou, la capitale du Bénin, Karine Kiki applique soigneusement de la crème solaire sur le dos pâle de ses jumelles. Vivant avec l'albinisme, les deux fillettes font partie d'une communauté déjà vulnérable qui fait désormais face à des risques accrus avec des vagues de chaleur extrêmes en Afrique. Karine Kiki est la mère des jumelles albinos.
Elles ne tombent pas souvent malades. En termes de santé, leur seul problème est leur peau. Lorsque les taches sont apparues sur leur peau, je les ai emmenées 3 fois chez un dermatologue. Il m'a ordonné une vigilance constante pour protéger les filles des rayons nocifs du soleil.
Karine Ongué, une femme albinos de 38 ans, a fondé Albi International, une association qui déploie des efforts pour soutenir les familles comme celle de Karine.
C'était le soleil qui avait causé le cancer de ma soeur. Donc, après l'enterrement et tout, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire savoir à nos frères albinos que le soleil était un danger. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer quelque chose pour les réunir. Il faut créer quelque chose pour sensibiliser, pour que la voix porte. Forcément, il faut une ONG ou une association.
Le docteur Diane Assogba, dermatologue à Cotonou, a expliqué les risques accrus des fortes températures pour les personnes atteintes d'albinisme. Docteur Assogba a souligné l'importance du port de chapeaux, des lunettes et des crèmes solaires, ainsi que des vêtements de protection face à des événements météorologiques extrêmes comme les fréquentes vagues de chaleur. Docteur Diane Assogba est dermatologue à Cotonou.
On sait que les rayons ultraviolets créent des altérations aux ADN des cellules de la peau. Et l'accumulation de ces dommages va entraîner une modification des cellules de la peau qui vont devenir progressivement cancéreuses Et donc, la mesure de protection se résume en un seul terme, la photoprotection, pour en fait limiter la dose de rayons ultraviolets reçus.
Alors que le changement climatique menace de rendre la chaleur extrême plus fréquente en Afrique de l'Ouest, des initiatives comme Albi International peuvent s'avérer cruciales pour protéger les communautés vulnérables, notamment pour des familles comme celle de Karine, qui font face à un défi à la fois médical et financier.
L'immigration est l'un des principaux enjeux des prochaines élections américaines. La vice-présidente Kamala Harris fait campagne sur ses réalisations en tant que procureure, tandis que l'ancien président Donald Trump dénonce le bilan de l'administration actuelle et promet de déportations massives d'immigrants sans papier. Aline Barros, journaliste spécialiste de l'immigration à la VOA, en dit plus. Le récit est de Lionel Gaïma.
Lors de sa campagne, la vice-présidente Kamala Harris met en avant son expérience en tant que procureur de district puis procureur général de Californie.
J'ai parcouru les tunnels souterrains entre les États-Unis et le Mexique, le long de la frontière, avec des agents des forces de l'ordre. Je me suis attaqué aux gangs transnationaux, aux cartels de la drogue et aux trafiquants d'êtres humains qui entraient illégalement dans notre pays. Je les ai poursuivis dans différentes affaires et j'ai gagné.
Pendant son mandat, l'ancien président Donald Trump a construit plus de 80 km de murs frontaliers. Il a réduit le plafond annuel des admissions des réfugiés à des niveaux historiquement bas et appliqué une politique qui séparait les enfants de leurs parents.
En novembre, le peuple américain comparera ces dossiers et dira « La tsar de frontière Harris, vous avez fait un travail horrible. Vous êtes une honte pour notre pays. Vous êtes renvoyé, sortez d'ici. Vous êtes viré, sortez d'ici. »
L'immigration est un sujet brûlant dans cette élection présidentielle. Selon une enquête de Chicago Council, 50% des personnes interrogées estiment qu'une immigration massive constitue une menace pour les États-Unis. Un peu plus de la moitié des Américains sont favorables à un mur frontalier et à l'utilisation des troupes américaines à la frontière américano-mexicaine. D'autres s'opposent à l'expulsion massive des immigrés sans papier. Le Congrès n'ayant pas réussi à adopter une réforme de l'immigration, la nation reste dépendante des mesures exécutives, des réglementations, quel que soit le gouvernement en place. Corey Foreman est un avocat en droit de l'immigration.
Dans le contexte politique actuel, la situation est difficile parce que les mesures prises par l'exécutif feront toujours l'objet de recours judiciaires et le Congrès n'est pas disposé à agir.
Harris s'engage à soutenir une législation sur la sécurité des frontières, soulignant le rôle de Trump dans l'échec d'un projet de loi bipartisan au Sénat au début de l'année.
Il a fait échouer l'accord bipartisan parce qu'il pensait que cela l'aiderait à gagner les élections. Ce qui montre que Donald Trump ne se préoccupe pas de la sécurité des frontières. Il ne se préoccupe que de lui-même. Voici donc la promesse que je vous fais. Si je suis élue présidente, je ramènerai le projet de loi sur la sécurité des frontières que Donald Trump a tué et je le promulguerai.
Les alliés républicains de Trump l'ont exhorté à se concentrer sur les domaines dans lesquels ils estiment qu'il a un avantage sur Harris, notamment en matière de l'immigration. Ils continuent d'appeler à l'expulsion des migrants sans papier et critiquent l'administration Biden-Harris pour ce qu'il appelle une politique d'ouverture des frontières.
Avec votre vote, l'inflation cessera. Les clandestins seront refoulés. Ils ne viendront pas et nous devons les arrêter. Vous avez vu ce qu'elle a dit maintenant? Oh, nous avions une très bonne frontière. Oh, super! Ils avaient la pire frontière de l'histoire du monde.
Les gardes frontières américains ont enregistré environ 130 000 traversées en juin, en hausse par rapport aux 104 000 du même mois de 2019, la dernière année de Trump à la présidence avant la pandémie, mais en baisse par rapport au pic de 300 000 enregistré en décembre 2023.
L'armée ukrainienne a mené une offensive en Russie ces derniers jours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé lundi que son armée avait décidé de pousser la guerre sur le territoire russe en menant des attaques dans la région russe de Koursk. Les détails avec Anita Powell, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, récit Alexandrine Holonian.
La guerre en Ukraine n'est plus circonscrite. C'est ce qu'affirme le président ukrainien Volodymyr Zelensky, confirmant que ses troupes ont pénétré ces derniers jours dans la région russe de Koursk, située à l'extrême ouest du pays.
Il n'est que juste de détruire les terroristes russes là où ils se trouvent, là où ils lancent leurs frappes, les aérodromes militaires russes, la logistique russe. Nous voyons à quel point cela peut être utile pour se rapprocher de la paix. La Russie doit être contrainte à la paix si Poutine veut continuer à faire la guerre avec autant d'acharnement.
100 000 civils russes ont fui l'offensive ukrainienne et le président russe Vladimir Poutine a affirmé que cela avait entraîné une hausse des enrôlements.
Il semble que l'ennemi cherche à améliorer ses positions de négociation à l'avenir. Mais de quel type de négociation pouvons-nous parler avec des gens qui lancent des frappes aveugles sur des civils, sur des infrastructures civiles et qui tentent de créer des menaces pour les installations d'énergie nucléaire? De quoi pouvez-vous leur parler?
La Maison-Blanche et le Département d'État ont adressé lundi une sévère mise en garde à Moscou concernant l'utilisation de munitions iraniennes. Vedant Patel est le porte-parole adjoint du Département d'État.
Nous sommes prêts à apporter une réponse rapide et sévère si l'Iran devait procéder au transfert des missiles balistiques, ce qui représenterait, selon nous, une escalade dramatique dans le soutien de l'Iran à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Les responsables iraniens continuent également de nier avoir fourni de drones à la Russie, alors que les preuves sont évidentes pour le monde entier.
Le porte-parole du Conseil de sécurité national de la Maison-Blanche, John Kirby, n'a pas eu grand-chose à dire lorsqu'on lui a demandé lundi si Washington craignait que l'Ukraine n'utilise des armes fournies par les États-Unis contre la Russie. Les analystes estiment que l'action de l'Ukraine est une surprise et qu'il s'agit probablement d'une tactique visant à lasser Moscou.
Ciao. Et voilà, c'est tout pour le monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter ce journal sur voaafrique.com et aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Je suis Nanit Kalani. Lionel Gaïma a assuré la mise en onde et Carl Sterling était à la console. Au revoir et à très bientôt.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Sabari FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Milo FM, 99.5, Cancan, Niger. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.